Blanche, large.
Jusqu'à 13h.
Entre émotion et évasion. Plan large.
Sur Radio Chablais.
L'entretien de Florian Barbet.
Lionel Pernet, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes le directeur du musée d'archéologie et d'histoire à Lausanne, au Palais de Rumine. On va parler d'une exposition incroyable. Alors, vous nous avez fait avec Cello une visite exclusive. On est le jour de fermeture. Normalement, les chiens ne peuvent pas entrer ici, bien évidemment, de cette exposition Destination Archéologie 1798. Vers le futur, on verra ce que vous avez voulu faire avec les invraisemblables, les incroyables, pour le néophyte que je suis, collection du musée. Vous êtes archéologue vous-même ?
Oui.
Qu'est-ce qui vous a... J'ai pas de carbone 14, moi, donc je sais pas quel âge vous avez, je sais pas si vous êtes un enfant d'Indiana Jones. Qu'est-ce qui vous a attiré vers cette discipline ?
Moi, c'est le... Alors, j'ai 47 ans et c'est
quand
la BD.
Vous êtes un enfant d'Indiana Jones.
J'aurais pu, effectivement, mais c'est plus jeune, c'était les bandes dessinées, Astérix, Obélix, Alix aussi un peu, ces BD qui nous plongent, qui nous font voyager dans le temps. On verra dans l'expo tout à l'heure que c'est vrai que c'est un des thèmes importants et qui nous amène ailleurs. Je pense que c'était ça qui était le plus fascinant, c'était de se retrouver dans d'autres mondes. On peut voyager dans la géographie, hein, on peut se déplacer dans le monde, puis on peut voyager dans le temps en lisant des choses, en s'intéressant au passé.
Ça, la fiction nous a offert des pages incroyables à travers la littérature aussi. Alors, vous avez cité la BD, c'est assez clair. Puisqu'on y est, allons-y. Le Indiana Jones, c'est bon ou c'est pas bon pour l'archéologie ?
Ah, je pense que c'est bon dans l'ensemble. C'est tout ce qui attire les gens vers la conscience que le passé a des choses à nous dire et que
sa
c'est
place
important.
Est dans un musée.
non, c'est bon. Après, c'est sûr que c'est une vision extrêmement romanesque et il peut y avoir, on le voit quand on fait les visites de fouilles avec le public, un peu de déception parce que la réalité du terrain, surtout chez nous, les états de conservation, parfois des vestiges sont assez mauvais, tranche avec ce que Indiana Jones va chercher, où il est dans le monumental, il est dans l'extraordinaire, l'exceptionnel. Ici, il y a un peu moins de ça.
On passe beaucoup d'heures le dos plié pour un petit bout de céramique.
C'est ça. Et puis des structures qui, des fois, sont pas non plus maçonnées. Ça peut être des fosses, des trous de poteaux, des restes qui sont difficiles à comprendre et à lire. Et puis surtout qui sont détruits au fur et à mesure de la fouille. C'est-à-dire que c'est pas toujours simple pour le grand public de comprendre qu'une fouille archéologique, elle détruit tout en sauvant la mémoire du site, en la transformant finalement en des données numériques aujourd'hui, hein, des dessins, des photos, des listes, des listings d'objets de ce qu'on va récupérer. Et ce qui reste à la fin, parfois, c'est une petite caisse avec quelques tessons, quelques objets en bronze ou autre.
Donc, on verra tout le défi d'ailleurs qui est le défi de cette exposition et d'un musée en particulier, de rendre ces petites choses, ou grandes choses d'ailleurs, hein, il y a des merveilles dans cette exposition, accessibles au plus grand nombre. Études d'archéologie, Lausanne, j'ai vu Panthéon-Sorbonne, vous avez fait un doctorat entre les deux universités, c'est ça ?
Oui, c'est ça, j'ai fait ce qu'on appelle une co-tutelle. À la fin des études à Lausanne, je suis parti à Paris, mais j'étais inscrit à l'université de Lausanne et après une année à Paris, je me suis inscrit aussi en thèse à Paris, j'étais inscrit dans les deux universités, ce qui permettait d'avoir, après le diplôme, en fait, reconnu dans les deux universités et reconnu en France aussi de manière directe, puisque je suis resté après en tout 7 ans à Paris et j'ai fait un concours de la fonction publique après la thèse à Paris, ce qui m'a permis d'entrer, on va dire, officiellement dans le monde des musées avec très vite un poste de direction. Mon premier poste était à côté de Montpellier dans un musée archéologique à Lattes à partir de 2009.
Tout jeune directeur de musée. Alors déjà, je me disais que pour le Palais de Rumine, la partie archéologie et histoire du Palais de Rumine, si j'ai bien calculé, vous aviez 37 ans. Hein,
ça fait 10 ans, exactement.
Ça fait jeune directeur de musée, si vous l'étiez encore avant dans une autre structure en France. Cette expérience française vous a aussi permis de faire des fouilles.
Alors, j'ai pendant toutes les années où j'étais en France, j'ai continué à fouiller. Ce qui était super, c'est que le labo, on dit comme ça, les laboratoires de recherche, qui incluent plusieurs...
Le labo, ça va, c'est pas du jargon.
Non, hein. Ça
labo,
va.
Le laboratoire,
va.
on l'a, Lionel Permet.
fouiller à l'étranger aussi. Et donc, moi, j'ai fouillé en Italie, des nécropoles celtiques, puisque mon domaine de spécialité, c'est ce qu'on appelle l'âge du fer, la période celtique. Fouiller en Normandie aussi, sur le site de Bibracte avec l'Université de Lausanne, donc plusieurs sites de fouilles, beaucoup des fouilles programmées, on va dire plutôt des fouilles de recherche, un peu moins de fouilles préventives qui sont liées aux aménagements du territoire, mais un petit peu peu ici pendant mes études. C'était la grande époque des fouilles d'autoroute et c'était tout l'été on allait fouiller pour gagner un peu d'argent pendant les études.
C'est bien la fouille, vous aimiez ça?
Oui, j'aimais ça, ouais, beaucoup.
Je vous pose la question parce que j'ai souvent avec mes interlocuteurs des gens qui ont quitté leur passion finalement pour un poste de direction, pour un poste un peu plus prestigieux, mais qui les fait abandonner la glaise. Hein. Ça a été votre cas?
Alors oui, mais de manière tout à fait décidée, après une dizaine d'années quand même, pendant lesquelles j'ai fouillé, mais pendant lesquelles je travaillais déjà aussi un peu dans les musées et sur les collections, donc j'avais déjà cet intérêt aussi, même de faire des sortes de fouilles dans les musées, puisque mon master, il était sur des collections découvertes anciennement, qu'on a réétudiées, en fait, réélaborées au Musée National à Zurich. Donc c'était pas un crève-cœur, c'était un choix à un moment de dire voilà, c'est une étape, une autre étape dans la carrière, de passer à une partie un petit peu plus, on va dire, de gestion administrative, mais dans laquelle on peut continuer à faire de la recherche.
Oui, parce qu'il faut bien que ces objets qu'on trouve soient conservés, récupérés, travaillés, étudiés et mis en valeur à travers la mission même d'un musée. Prendre la direction d'une institution comme cette maison vénérable, en fait c'est 225 ans, enfin pas la maison elle-même, mais l'idée d'un musée cantonal, ça a 225 ans, c'est l'objet de cette exposition. Ça donne une responsabilité particulière, vous avez le patrimoine du canton entre les mains, quoi.
Oui, tout à fait. Oui. Et quand on voit tous ces objets qui sont transmis parfois dans des conditions qui ne sont pas celles qu'on a aujourd'hui, on se plaint des fois de nos dépôts et des conditions de conservation, mais quand on voit ce qu'ils avaient au début du 19e, on peut trouver vraiment miraculeux que ces objets sont encore là. Et je me rappelle quand j'ai pris mon poste, donc il y a 10 ans, mon prédécesseur Gilbert Quesnel avait un grand portrait de Frédéric Troyon dans son bureau et je l'ai gardé, et il m'avait dit un des jours où il me passait un peu des infos, etc., il m'avait dit bah tu vois, je le laisse là, et puis il me regarde et de temps en temps je me tourne vers lui et je me demande ce qu'il aurait fait.
Frédéric Troyon, voilà, c'est le premier
directeur du musée des Antiquités qui prend la tête du musée en 1852, au moment où le musée cantonal, qui est un musée encyclopédique, commence à se spécialiser en fait avec des sous-musées un peu musées
de sciences naturelles, la géologie,
exact,
les sciences naturelles,
ouais, les beaux-arts aussi, ouais, qui sont sortis déjà en 1840.
Alors il y a deux histoires parallèles, hein. Il y a l'histoire de l'idée muséale, et là on est à la création du canton de Vaud, c'est ça?
Oui, tout à fait.
1798, l'idée de
1803,
conserver.
On va dire, parce qu'au moment de la libération, c'est encore un peu compliqué jusqu'à l'acte de médiation. Pour le canton de Vaud, les choses ne sont pas très très simples et claires. Donc 1803, mais les premières tentatives jusqu'en 1818, où le musée cantonal va être créé, sont assez infructueuses, mais il y a déjà l'idée tout à fait claire de créer cette institution qui va regrouper des biens collectifs en fait appartenant au canton, que ce soit dans le domaine des beaux-arts, des sciences naturelles, de l'histoire.
C'est une tendance un peu générale, parce que si je pense au musée du Louvre par exemple, qui est le premier et le plus grand qui me vient à l'esprit, ça date d'avant.
Un petit peu, mais pas tant que ça, parce que
donc
c'est
on est dans ce
fin
moment
18e.
Où,
ouais, tout à fait. Ouais.
Et les Suisses. L'esprit des Lumières, il faut conserver, etc.
Exact. Et pour les Français, il y a un immense transfert en fait de biens de toute l'aristocratie au sens large et de la royauté vers l'État qui est créé. Ici, un peu moins, parce qu'il n'y a pas de grande collection aristocratique. Les Bernois qui partent n'avaient pas créé des grandes collections d'archéologie vaudoise. Il y a quelques objets qui sont à Berne, mais ce n'est pas des énormes collections. Donc en fait, ici, on part de rien, tandis que dans les grandes monarchies européennes, on a quand même une base qui est souvent celle des collections royales, des collections princières qui existent et qui remontent souvent au XVIe, XVIIe siècle avec les grands cabinets de curiosité. Ici, on part de rien, mais on est inspiré par la France notamment, qui est en train de créer, d'inventer ces institutions en fait, que sont les musées.
Alors, je disais, il y a deux histoires parallèles. Il y a celle de l'idée du musée, on comprend bien que c'est le début du XIXe siècle, avec ce voyage que vous nous proposez à travers l'exposition, on en parlera dans la deuxième partie. Et puis il y a cette maison, ce palais de Rumine, là on est au début du XXe siècle, un siècle plus tard, dans une idée de réunion justement de toutes ces tentatives muséales et d'avoir c'est un legs, hein, c'est une belle occasion en fait.
Oui, l'argent de Gabriel de Rumine qui est utilisé à la fois pour des extensions d'auditoire de l'université, parce que l'université est vraiment à l'étroit sur la colline de la cité à l'académie. Et puis les musées qui sont eux aussi très à l'étroit dans les différents bâtiments de la cité, à l'académie aussi, qui permettent comme, qui leur permet comme ça d'avoir des vraies salles d'exposition. Et on garde cet esprit encyclopédique puisque dans un même bâtiment, on aura les beaux-arts, les sciences naturelles et l'histoire. Donc en un coup d'œil comme ça, on peut faire le tour, on va dire, des richesses vaudoises.
Et ça marche à l'époque, il y a un engouement populaire début du XXe siècle comme ça, à venir contempler les richesses du canton ?
Alors, on a l'impression que ça marche, mais c'est très difficile de le quantifier, puisque quand on a fait le fêter les 200 ans du musée cantonal en 2018, on avait cherché des éléments sur la manière dont le public s'était approprié ou pas ces musées, des chiffres sur les fréquentations, les visites, et en fait, on n'a pas trouvé ces informations. Donc, on le pense, mais on ne peut pas le démontrer avec les documents historiques.
Bon, en tout cas, ça donne l'image d'un canton qui finalement, on est une confédération d'États, hein, cette Suisse moderne. L'image d'un canton qui se voit comme un État.
Exact.
Alors, c'est pas celle qui a les musées cantonaux en Valais. Enfin, il y en a partout.
Hein, mais... Pas tous les cantons. Hein, ouais. Pas tous les cantons ont créé des musées cantonaux. Donc, c'est vrai que ça dépend vraiment des sensibilités régionales. Mais c'est vrai qu'avec le tribunal, au début du canton de Vaud, avec la monnaie, hein, puisqu'il y a les monnaies dans les cantons frappent monnaie. Donc, on a ces grandes institutions qui se mettent en place et le musée en fait partie.
Alors cette maison a accueilli, vous l'avez dit, partie de l'université de Lausanne. Ça s'est fini depuis les années 80 du siècle passé. Il y a aussi eu la période où le Grand Conseil siégeait ici. Et puis tout à coup, en quelques décennies, il n'y a plus le Grand Conseil. Ça, il y a de nouveaux bâtiments, il n'y a plus l'université, il n'y a plus le musée cantonal des Beaux-Arts. Ça fait tout à coup une place pour l'archéologie et les sciences naturelles qui sont les deux dernières institutions dans ce bâtiment qui doit être à la fois vertigineuse et sympa pour vous.
Extraordinaire. Oui, c'est clair qu'on a, depuis 2019, on a hérité entre guillemets des grandes salles d'exposition des Beaux-Arts qui étaient des salles d'expo permanentes où eux étaient à l'étroit, mais 1200 mètres carrés puisque c'est la surface qu'on a pour destination archéologie aussi, c'est énorme pour faire des expositions temporaires. Je crois que même il y a peu de musées qui même aujourd'hui en Suisse ont des espaces de cette ampleur là pour faire des expos temporaires. C'est presque un peu trop grand, on va dire, pour du vrai temporaire qui normalement se renouvelle tous les 3-4 mois. Donc là on est dans un format un peu hybride où on est entre l'expo permanente et l'expo temporaire.
On est dans un temporaire qui dure. On va parler de cette exposition qui retrace, qui ouvre hein, sur les incroyables collections de ce musée et puis aussi sur la façon dont on a imaginé et pensé l'archéologie depuis la création de ce musée au début du 19e siècle. On se retrouve dans la deuxième partie.
Plan large.
Jusqu'à 13h.
Entre émotion et évasion. Plan large.
Sur Radio Chablais.
L'entretien de Florian Barbet.
Lionel Pernet, on se retrouve dans ce musée d'archéologie et d'histoire du canton de Vaud, à Lausanne, Palais de Rumine. On a parlé de l'institution vénérable. On y est, on entend peut-être un petit peu résonner d'ailleurs les hauts plafonds de ces salles. Avant de passer à l'exposition, qu'est-ce que ça vous fait, vous, de voir ces pièces? Vous vous dites, je suis à la tête d'une collection incroyable. Vous avez des émotions encore de jeune homme devant une pièce, un vase, quelque chose?
Ouais, quand même une fierté aussi, une fierté pour le canton, pour le territoire, et puis quand même de la reconnaissance aussi pour le travail des prédécesseurs. On verra, on en parlera peut-être tout à l'heure, qu'aujourd'hui il y a des discussions hein, sur la moralité ou non de posséder des objets qui viennent d'Égypte, de Rome, de Grèce. Mais je trouve que c'est assez quand même remarquable que dans une petite ville comme Lausanne à l'échelle européenne, dans un petit état, on n'est même pas encore 1 million d'habitants dans le canton de Vaud, on soit, disons, à la tête d'une collection aussi diversifiée et puis qui ait eu à un moment donné cette vision de dire si on veut partager des choses, des émotions autour de l'archéologie, il faut peut-être élargir le champ à un peu plus que l'archéologie vaudoise. Ça, c'est ce qu'on a essayé de garder comme esprit dans l'exposition et que les musées continuent à nous émerveiller. Je crois qu'aujourd'hui, c'est vraiment important dans un monde qui n'est pas toujours simple à déchiffrer et puis des situations complexes autour de nous. On le voit avec le retour de la guerre, des choses lourdes, difficiles à vivre, mais qu'on soit dans un moment d'émerveillement et que le passé, qui n'est pas fait que de moments roses non plus, parce que l'Antiquité, si on prend l'Antiquité, c'est des moments très durs d'opposition sociale, de esclavage, etc. Donc c'est pas forcément très très drôle, mais on peut essayer de trouver là-dedans quand même ce que j'évoquais au tout début avec la BD et puis les voyages dans le passé. C'est quand même quelque chose qui nous donne une respiration et puis un, et puis qui nous fait aller ailleurs un petit moment.
Bon, ben c'est l'ambition de cette exposition qui est vraiment remarquable. Hein. Vous avez beaucoup travaillé avec vos équipes, bien sûr, hein, on peut leur rendre un hommage. C'est de nous montrer finalement comment on fait de l'archéologie depuis qu'on fait de l'archéologie. Hein. On est à la fin du 19e siècle, il y a un engouement pour la Grèce, pour Rome. Bon, ça c'est chez nous déjà, dans l'Europe, on connaît ça. Et puis tout à coup, il y a l'Égypte.
L'Égypte, fin du 18e, on est à la fin du 18e, tout début du 19e, avec la campagne d'Égypte. Donc on fait commencer l'expo en 1798, parce que c'est un petit peu le hasard hein, du calendrier de l'époque, mais c'est l'année où Napoléon vient conquérir la Suisse, envahit la Suisse. Pour les Vaudois, c'est considéré comme le moment de la libération de Berne. Pour d'autres cantons suisses, c'est considéré comme une invasion. C'est intéressant, l'historiographie, là, les événements sont vécus très différemment. Pillage du trésor de Berne. Et avec une partie de ce trésor, Napoléon part en Égypte.
Ça, je l'apprends avec vous. Hein. C'est en partie
donc, l'argent
trésor
des
de
Suisses
Berne
a servi
voilà, son expédition d'Égypte.
Voilà. Et cette expédition, c'est un désastre militaire. Il se fait ratiboiser par les Anglais, mais il le transforme en une victoire culturelle puisqu'il avait pris avec lui une armée, on peut dire, hein, vraiment de savants, des gens des sciences naturelles, des historiens, des archéologues. Et ils vont documenter cette Égypte ancienne avec la fameuse description de l'Égypte qui sera publié dans le courant du début du 19e et qui va fasciner vraiment les foules et surtout la grande bourgeoisie et les bourgeois de l'époque et qui est considéré aujourd'hui comme le moment de la naissance de l'archéologie moderne, c'est-à-dire qu'on a un tournant d'une activité qui était pratiquée par des aristocrates qui lisaient les sources antiques, qui étaient quand même des gens très érudits, à une première étape de démocratisation de l'archéologie.
Il y a un grand personnage dans ça, c'est Champollion, évidemment.
Évidemment, hein, et puis en 1822, le déchiffrement des hiéroglyphes. Et tout d'un coup, ça ouvre à la compréhension vraiment de l'histoire
de
cette civilisation.
Mais alors, on est dans un moment où, justement, une institution suisse, cantonale, vaudoise, se dit, c'est ça qu'il nous faut. C'est pas notre passé à nous, c'est ça qu'il nous faut. Et on va commencer à faire des collections grecques, romaines, égyptiennes. Mmh,
tout à fait. Aussi parce que des Vaudois partent avec Napoléon, c'est ce que montre l'expo. Hein. Des gens ne le savent peut-être pas, mais il y a des Vaudois qui font la campagne d'Égypte, des campagnes d'Italie aussi. Il y a quelques objets qui reviennent dans ce cadre-là. Mais après, c'est vrai que tout bon musée encyclopédique doit avoir ses momies, doit avoir une collection de vases grecs, de vases antiques. Et on va, au fil du 19e, construire une grande collection sur la base d'échanges, d'achats. Tout n'est pas non plus acheté. Hein. Il y a des choses qui sont données au musée, soit par des legs, ou d'autres conservateurs qui échangent avec Frédéric Troyon, qu'on évoquait tout à l'heure. Par exemple, dans la partie sur la naissance de la préhistoire, on a toute une série d'outils en silex qui est taillé, qui sont échangés par Troyon, qui lui peut donner en échange, par exemple, des objets des sites palafitique suisse.
Alors ça c'est justement le cheminement de l'archéologie telle qu'elle est vécue et pratiquée dans le canton de Vaud. Au début on se dit si on veut ressembler à quelque chose il nous faut du grec, du latin, de l'égyptien. Et puis ensuite, alors ça va en parallèle avec l'histoire de ce pays, hein, c'est les dates qui sont le chemin de votre exposition, on va pas aller dans le détail, mais il faut tout à coup construire un pays, construire une identité nationale, construire un récit national, et donc s'intéresser à notre propre passé. Puis là, vous avez utilisé le mot palafite, c'est le moment, c'est ces fameux lacustres.
Oui, les sites lacustres, qui sont une découverte quand on lit hein, les commentaires de l'époque, que les gens comparent vraiment aux pyramides en disant, on a notre grande civilisation à nous, qui est l'équivalent de celle des Égyptiens avec les pyramides en Égypte. D'ailleurs, les dates sont à peu près similaires, hein. Les sites palafitiques, ça commence au milieu du néolithique, ça dure tout l'âge du bronze, donc on est bien vers moins 4000, moins 3000, moins 2000 avant Jésus-Christ. Et là, ça se révèle suite à un hiver très sec en 1853-54, où des forêts de pieux sur les plages de certains lacs, hein, lac de Zurich, mais le lac de Neuchâtel aussi, apparaissent. En fait, ces pieux, ils étaient déjà visibles, on les voyait, mais on n'avait pas pris conscience de leur lien avec ces périodes aussi anciennes. Et ces pieux, au pied de ces pieux, on a des objets qui jonchent la plage, mais vraiment des milliers d'objets qui vont entrer dans les collections de musées, qui vont en partie être ramassés aussi beaucoup par les gens hein, qui vivent au bord de ces lacs et qui vont les vendre. Donc on a une hémorragie là de patrimoine local hein, qui fait pendant à ce qu'il arrive en Grèce, en Italie, en Égypte aussi, parce qu'au 19e, ces marchandises ne sont pas protégées. Enfin, ces objets, on va dire, sont des marchandises qui ne sont pas protégées par aucune loi. Et donc, il n'y a rien qui empêche les gens gens d'aller les prendre et les vendre. Donc les certains cantons et certains conservateurs comme Troyon par exemple se ruent sur ces sites pour essayer de ramasser des choses, les
sauver
faire prélever,
ce qui peut être sauvé, quoi.
Voilà,
ouais.
Et de les amener au musée cantonal, ce qui lui vaudra d'ailleurs d'être accusé d'être
de
assis sur le trésor local et de pas d'empêcher d'autres savants de les étudier. Donc il y a un conflit là, c'est vrai. Est-ce que l'archéologie elle appartient à tous les savants ou est-ce qu'elle appartient à l'État? Est-ce que l'État peut finalement prendre des objets en son nom? Donc ça on le voit un petit peu en filigrane dans certains éléments de l'expo, mais c'est pas la fuite, ils vont aussi, alors ils vont servir, on l'a dit, à créer une identité nationale ensuite suisse, qui ils sont des candidats idéals pour une Suisse en fait
telle qu'on la rêve, quoi. Ils sont des imagines pacifiques, modestes,
avec tous les stéréotypes du 19e, les femmes qui s'occupent des enfants, les hommes qui chassent. Donc on voit aussi que se construit une image de la société qui ensuite va être très forte pendant tout le 20e siècle en archéologie, qui est imprégnée de ce qu'on vit au 19e siècle, une société quand même assez puritaine, bourgeoise, avec des codes très précis. Mais c'est aussi les palafites, et on le montre dans l'expo avec nos collègues des sciences naturelles, c'est aussi la naissance d'une archéologie très scientifique, parce que avec l'état de conservation des vestiges, les graines, les restes animaux, on va avoir des naturalistes qui s'intéressent aux archéologues. Jusque-là, les archéologues, c'était des érudits qui lisaient des bouquins dans des bibliothèques et puis qui trouvaient des jolis vases. Et tout d'un coup, on se dit, mais avec ces gens, on peut aussi créer du savoir scientifique sur le passé. Et on a toute une section sur la collaboration entre sciences naturelles et archéologie, qui est un moment très fort, une étape, vraiment, après 98, on peut dire que les années 1850, c'est une étape où la Suisse est tout à fait pionnière en Europe dans la mise en place d'une archéologie scientifique.
Cette maison en est le reflet d'ailleurs, puisque le Natureum, le musée d'histoire naturelle est dans cette même maison, et que les collaborations, y compris sur cette exposition, sont nombreuses entre vous. Alors, on va pas faire toute l'expo, on l'entend bien, donc il y a une évolution sur comment se pratique l'archéologie, comment on la construit, comment elle entre ou elle n'entre pas dans le récit national, dans l'idée qu'on se fait de soi-même à travers son passé. Est-ce que c'est toujours le cas? Est-ce que l'archéologie, l'histoire aujourd'hui, est toujours un instrument du récit national, est toujours quelque chose qui est par force, humainement construit?
Ouais, complètement, je crois. On le voit aussi avec les situations tragiques en Ukraine ou à Gaza. On voit à quel point, parfois, il y a une vraie volonté politique aussi de détruire certains témoignages ou restes matériels du passé pour reconstruire une autre histoire, ou pour dire non, toute l'histoire que vous vous êtes construite, elle n'existe plus, elle n'existe pas. On va reconstruire une nouvelle histoire. S'il n'y a pas de vestiges, s'il n'y a pas de restes, on peut tenir des discours qui ne s'appuient plus sur des vestiges matériels. Donc ça, c'est quelque chose qui est vrai et qui est à la fois important parce qu'on s'inscrit dans un continuum long, puis en même temps qui peut être tragique parce que quand cette histoire est détruite, on la reconstruit avec parfois un discours qui convient pas du tout aux gens qui vivent sur le territoire en question. Donc c'est ce que dit la fin de l'expo un petit peu quand même, c'est comment vous vous faites une image du passé? On est ici dans la partie de l'expo qui est la salle de classe. Une partie, je pense, de notre vision du passé, elle s'est construite à l'école, forcément. C'est là qu'on a parlé des palafites, des grecs, des romains.
On disait les lacustres, moi, palafites, c'est un mot que j'ai entendu beaucoup plus tard.
Des lacustres. Et comment, après, ensuite, la culture populaire est venue, on revient à Indiana Jones, est venue se rajouter des couches, Astérix, Obélix, les films, le cinéma, ça va de Charlot jusqu'à Gladiator 2, dans la dernière salle, on évoque un petit peu toute cette culture populaire qui souvent est héritière quand même des clichés, des stéréotypes du 19e, mais qui est en même temps une immense porte d'accès au passé et puis à l'intérêt que les gens peuvent avoir pour le passé.
L'histoire est construite par les humains, ça fait partie des sciences humaines d'ailleurs, on comprend bien ça. J'aimerais votre avis là-dessus. Moi j'ai l'impression qu'il y a avec le progrès scientifique, avec toutes les méthodes qu'on a aujourd'hui, le carbone 14 qui est déjà ancien, mais aujourd'hui la génétique, etc., l'ADN, il me semble qu'on assèche le rêve. C'est pas le cas un peu?
Alors c'est un peu, oui, dans la dernière salle, c'est un petit peu les tensions qu'on montre, c'est que des fois l'archéologie scientifique, elle est effectivement un peu terne ou sèche. Et donc, moi je dirais que les artistes et les arts se chargent de ramener du rêve, parfois un petit peu contre la vision scientifique des archéologues, mais je pense que c'est dans la tension entre ces deux parties qu'on trouve une espèce de voie moyenne qui nous permet de continuer à rêver tout en se disant, bon, ça, on sait que c'est pas vrai, mais c'est égal, finalement. La fiction, elle a la licence de nous faire rêver, voyager un peu différemment.
Vous relisez Astérix, périodiquement.
Oui, et puis les nouveaux aussi qui sortent, évidemment. Je m'intéresse aussi pour voir de... comment ils arrivent à maintenir le rêve en vie, comme ça, parce que c'est un défi. Hein, ça.
On arrive à la fin de cette émission. J'aimerais parler de deux choses un peu courtes liées à ce monde des musées. La restitution, on a abordé. Hein. Il y a des œuvres qui viennent d'Égypte, des pièces de Rome, de Grèce, etc. L'idée de la restitution est très actuelle. Est-ce que c'est quelque chose qui est aussi dans vos esprits, sur lequel vous travaillez ?
Alors nous, on est tout à fait ouvert aux demandes de restitution. D'ailleurs, on est plus...
Restitution, donc, des pays d'origine.
Hein. Voilà, des pays d'origine. On est plus sollicité, on va dire, pour les questions ethnographiques, qui ne sont pas tellement valorisées dans l'expo, mais le canton de Vaud a aussi un fonds d'objets, on va dire, ethnographiques extra-européens, où là, il y a des enjeux très identitaires, très forts sur des collections dont on n'a pas toujours des bonnes informations sur la manière dont elles sont sorties de ces pays. Par contre, pour les collections archéologiques, et notamment celles de destination archéologie, en fait, on n'a pas de demande ni des Égyptiens, ni du gouvernement grec ou italien, parce qu'on est sur des objets qui sont acquis avant la mise en place de toutes les lois de protection du patrimoine, dans un contexte où finalement, ben, c'est accepté, hein, de la même manière que les objets suisses sont vendus en Angleterre ou British, sur lesquels on ne fait pas de demande de restitution, ben, c'est accepté qu'on est dans ce moment finalement où, voilà, les objets sont une marchandise. C'est peut-être moralement pas acceptable, mais on n'est pas non plus sur des pièces qui sont des exemples, enfin des éléments extrêmement...
Voilà, ouais.
C'est des multiples, c'est des pièces qui existent par centaines, par milliers, qui sont produites en grande quantité dans l'Antiquité. Et aujourd'hui, on accepte qu'on est sur... parce que Bénédicte Savoie, qui travaille beaucoup là-dessus, appelle des objets avec une identité transnationale, c'est-à-dire qu'ils appartiennent autant à ces pays qu'à nous, d'une certaine manière, parce qu'ils racontent aussi des choses qui nous concernent, nous, sur l'histoire vaudoise, sur l'histoire de l'archéologie.
Très rapidement, parce qu'on est à la fin de cette émission, on vient d'avoir un casse au Louvre plus récent et qui vous touche plus au musée romain à Vidi. Voilà, l'institution, elle est en péril.
Disons que ça inquiète, oui, je dois dire, tout à fait. Ça inquiète surtout avec les modes opératoires à Vidi, où on vient en plein jour, on attaque, on l'a vu au Louvre aussi, mais là, on s'en est pris physiquement à l'agent d'accueil. Donc là, on est sur un niveau quand même qui est tout à fait inquiétant, avec des outils qui sont de plus en plus performants et qui remettent en doute vraiment aussi ce qu'on nous a dit de la sécurité de certaines de nos vitrines.
Et puis qu'on trouve dans un bricot, hein, c'est ça.
Voilà,
c'est
qu'on achète en ligne pour pas cher. Et là, ça nous oblige en fait à revoir même le type d'objet qu'on expose, parce que l'objet, c'est une chose, évidemment que c'est une perte irrémédiable, mais après, si on a des gens qui sont mis en danger physiquement, leur intégrité physique est mise en danger, là, nous, on peut pas se permettre de prendre ce type de risque. Et donc, c'est triste, mais on doit retirer certaines pièces des expositions.
Merci à vous, Lionel Pernet. Je rappelle le titre de cette exposition, Destination Archéologie 1798 vers le futur, une histoire de l'archéologie. Vous faites de l'archéologie finalement, c'est très intéressant, au Palais de Rumine jusqu'au 7 février 2027, et peut-être plus long, mais comme toujours, hein, quand on a du temps pour le voir, il faut y aller quand même, parce que sinon on n'y va pas. Merci à vous.
Merci.